Bonjour Catherine Rochette.
Bonjour.
Vous êtes ici avec nous pour ce numéro de Vivre Ensemble pour évoquer le festival du film d'éducation.
Oui.
Sa version régionale, sa version occitane, un festival européen, je ne sais pas si on va dire européen, vous allez me reprendre s'il faut me reprendre, qui est organisé depuis déjà de nombreuses années par les CEMEA.
Oui, c'est ça.
Alors pourquoi est-ce que vous faites bien une distinction entre cette version régionale, cette version nationale que l'on trouve plus facilement sur Internet, voilà, quand on n'est pas... complètement au fait de ces tractations internes. Alors, allons-y pour le festival régional CMEA du film d'éducation.
Alors, en fait, c'est un festival national qui est né en Normandie il y a 12 ans, effectivement.
À Évreux, je crois.
À Évreux, voilà, c'est ça. Et la programmation, on va au festival national pour faire la programmation régionale, en fait.
Alors, est-ce que d'autres régions, autres que le Languedoc, enfin l'Occitanie maintenant, ont une édition régionale ?
Oui, c'est le principe du festival national. En fait, au départ, c'était juste une idée qu'on défend au CMEA, c'est une idée d'éducation populaire. Et au départ, c'est l'idée de Jean-Paul Cailleux, qui était un cinéphile averti et qui travaillait à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle le réseau Canopé, mais c'était avant les CRDP. Mmh. Et il était là-bas, il recevait plein de films qui racontaient des histoires de vie, des histoires d'éducation, de citoyenneté. Et il s'est dit, ça serait bien qu'on puisse les montrer au tout public et les rassembler. Donc il a appelé les CMEA et il a appelé la protection judiciaire de la jeunesse, il y a 12 ans, pour faire un festival. Donc au départ, c'était juste l'idée de passer des films comme prétexte en fait, au débat citoyen, à remettre des questions, des réflexions sur l'éducation, sur le vivre ensemble, etc.
Mmh. Et donc après, pas forcément dédié au préalable à des jeunes. Pas nécessairement. Voilà, c'est le thème sur l'éducation, oui. La citoyenneté, on dirait maintenant.
Voilà, ce qui est différent de la pédagogie. Voilà, c'est pas des films pédagogiques, ni forcément didactiques. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Ce qui compte, c'est vraiment d'utiliser le cinéma comme un prétexte. Et donc après, il y a une logique de compétition, parce que si on veut être connu, médiatisé, et puis pour recevoir des films de plus en plus importants, pour recevoir des réalisateurs, des distributeurs, etc., il faut une compétition, malheureusement. Donc là, ça a été un peu à l'encontre des valeurs qu'on défend, mais on a été obligé de le faire. Et donc dans cette logique de films en compétition, les films primés au Festival National, ensuite il y a eu des droits qui ont été négociés avec les ayants droit, et les films sont diffusés ensuite en région. Et donc au départ, on était quelques régions qui pouvions supporter un tel événement, et maintenant c'est pratiquement dans toutes les régions de France. Voilà. D'outre-mer et l'Europe et l'international. Mmh. Parce que notre association, CMEA, qui fête les 80 ans l'année prochaine.
Une vieille dame.
Voilà, comme Blanche-Neige en fait. Il y a à chaque fois un siège social à Paris, bien sûr. Et puis après, il y a des associations territoriales dans chaque région. Et puis dans les dom-toms, et puis aussi à l'international. Mmh. Donc le festival, il est européen depuis 3 ans seulement. C'est-à-dire qu'on fait des échanges avec des pays européens. Il y a le festival qui vont dans ces pays-là, et nous, on reçoit des films européens. Ouais. Voilà, pour parler justement de ces questions aussi, l'éducation ailleurs, comment ça marche, voilà, ça. Et le vivre ensemble ailleurs.
Donc du coup, il y a déjà plusieurs questions qui émergent. Est-ce que ça veut dire qu'en Europe, il y a aussi des antennes CMEA?
Oui.
Pas du tout. Il y a des antennes.
Voilà.
D'accord.
Alors après, c'est un peu comme en métropole. C'est selon la richesse des bénévoles et des militants qui sont dans l'association. Il y a des associations et des territoires qui sont plus importants que d'autres. Mmh. Donc ça va dépendre de ça aussi, parce que organiser un festival de cinéma, ça demande beaucoup de moyens humains, surtout financiers aussi, mais surtout humains, puisque nous on est militants, donc le financier c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Et donc à Montpellier et en Occitanie maintenant, on est le deuxième plus gros festival après le national. Voilà. Et ça fait 9 ans cette année, donc 10 ans l'année prochaine, qu'on organise le festival européen du film d'éducation, maintenant en Occitanie.
Alors, un festival européen qui accueille des récits fictifs, des fictions, des documentaires,
c'est
des reportages,
il y a tous les
formats
films.
N'est pas prédéterminé,
non.
Tout c'est ouvert.
Ben, dans la mesure où on est quand même aussi défenseur d'un certain cinéma, les films documentaires et les courts-métrages étant très peu montrés dans les grandes salles, on défend ça aussi, donc Il y a beaucoup de courts-métrages. D'abord parce qu'on travaille beaucoup avec la jeunesse, les adolescents et les adolescents aussi à la protection judiciaire de la jeunesse, avec qui on fait un travail formidable, mais ça je vous en parlerai plus tout à l'heure. Les courts-métrages, c'est plus facile quand on travaille avec le jeune public, puisque les trois objectifs ici en Occitanie, c'est de sensibiliser le grand public, voilà, de former les professionnels de terrain et d'éveiller l'esprit critique chez les tout-petits. Donc le format court-métrage est adapté pour ça. Ensuite le format documentaire, puisque voilà, c'est le cinéma qu'on défend aussi, le cinéma de proximité. Puis raconter des histoires de vie, c'est plus facile. Et puis quand même de la fiction, des longs-métrages et aussi forcément des films d'animation, pour un peu respirer et un peu prendre de la distance, parce que des documentaires de société, si on les enchaîne, ça peut être un peu lourd quand même.
Alors, ce festival se termine là, ces jours-ci.
Oui.
Vous en sortez là, abattue, enthousiasmée, fatiguée. Comment est-ce que c'était cette neuvième édition, nous l'avons dit?
Alors, c'est une saison cinématographique. Ça a démarré en mars avec une avant-première d'un film très intéressant sur la question de l'éducation en Israël et en Palestine, avec la réalisatrice qui était là. C'était au cinéma Diagonale en mars. Et le festival, c'est ensuite, on a enchaîné à Montpellier avec des projections sur trois journées avec du jeune public, un travail intéressant autour de la question de la place de la femme à travers la culture, qu'on a organisé avec la PJJ. Quelque chose qui était très intéressant aussi sur des professionnels de terrain qui travaillent dans des ITEP pour aborder la question justement des enfants dits différents, voilà, et de leur éducation dans une institution. Et puis on a fait aussi quelque chose qui a pas mal fonctionné pour la première fois au Gazette Café. On avait fait une conférence autour de la question du genre, de l'identité et de la norme. Et on a passé un documentaire qui sort en salle maintenant, grâce à nous aussi, parce que notre réseau, en fait, permet justement d'avoir cette porte ouverte aussi sur les films qui n'ont pas encore de visa d'exploitation. Voilà. Donc, s'ils sont beaucoup distribués, qu'on en parle, ensuite, ils peuvent sortir en salle. Et ce documentaire s'appelle « Parole de King » et c'est sur la vie, même la mise en lumière du mouvement des « drag kings ». C'est-à-dire, on connaît les drag queens, hein, les hommes qui se travestissent en femmes pour travailler le féminin ou le masculin. Ben là, c'est l'inverse. C'est des femmes qui se travestissent en hommes. Donc, c'était assez intéressant. Le Café Gazette était plein et la conférence derrière la table ronde sur ces sujets-là, c'était très intéressant. Ouais. Et si ensuite, le festival est parti sur Nîmes, sur Béziers, sur Perpignan, à la Cinémathèque Jean Vigo à Perpignan. Et on revient à Montpellier pour la clôture qui aura lieu mardi prochain, le 13.
Mardi 13 décembre.
Voilà, avec un événement extraordinaire qui est la venue du cinéaste Luc Dardenne, qu'on connaît beaucoup.
Seul alors Il vient seul.
Sans son frère. Mais je ne sais pas pourquoi il vient sans son frère, sûrement parce qu'il apparaît dans le film qu'on diffuse. Et c'est ce film-là qui a permis la rencontre, en fait. Le film d'Alice Fargier, documentaire, qui s'appelle « Le mur et l'eau ». Et cette réalisatrice a une idée extraordinaire, c'est qu'elle était éduque à un moment donné, dans une colo, elle emmène les gamins au cinéma, comme souvent, et elle emmène des gamins qui sont placés en famille d'accueil, elle les emmène voir le film des frères Dardenne, Le gamin au vélo. Et à la sortie de la salle, enfin quelques jours après, elle filme des gamins en leur demandant « qu'est-ce que t'as pensé du film ?» Elle en filme un en particulier, qui s'appelle Bradley Le Bouille, et qui était tellement touchée par le film qu'il n'a plus de voix. Parce que c'est comme si ça racontait son histoire. Donc elle le filme et elle emmène la vidéo à Luc Dardenne. Elle lui dit « voilà, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Luc Dardenne répond à Bradley. Et une espèce de correspondance qui se met en place entre Bradley et Monsieur Dardenne. Ils se parlent par caméra interposée. Ils se sont jamais rencontrés, ils vont le faire à Montpellier le 13 décembre.
Ah oui. Donc vous arrivez comme ça à des événements hors cinéma,
complètement
miraculeux finalement, en y associant l'atout de la jeunesse et l'atout de l'image.
C'est ça. Et puis les frères Dardenne, voilà, ils font un cinéma qui est très proche de nous. Voilà, c'est y a pas de fioritures, c'est du naturel, on a l'impression que c'est du documentaire. Et je pense que il vient à Montpellier, mais entre deux vols d'avion, c'est très compliqué pour lui de s'être libéré.
Oui.
Mais je pense que c'est parce que le projet lui tient à cœur, plus que la projection médiatisée, etc. D'ailleurs, il y a très peu de médias qui sont prévenus et retenus, parce que ce qu'on a cherché à faire aussi, c'est de tout rassembler sur la rencontre et l'intime. Voilà. Donc, préserver ce moment-là.
Mmh. C'est pas Arena qui pouvait accueillir ce moment-là.
Non, ouais. Et puis, alors ça, c'est pas intéressant, je trouve. Sinon, ça défend pas des valeurs d'éducation populaire, de proximité,
exactement,
et
ouais,
de rencontre.
Ouais.
Donc, on fait ça à Utopia. C'est une petite salle.
Oui,
donc, ça, c'est
juste
l'avantage
à côté
aussi.
De FM+.
Voilà.
Plus,
voilà. Et donc, c'est l'avantage, c'est que voilà, il y aura une centaine de personnes. Et je pense que là, on peut vraiment et encore débattre et encore voilà, approcher les gens et leur parler, quoi. C'est ce qui compte.
Absolument. Quelle autre perle retenez-vous encore de cette 9e édition?
Le travail, je veux vraiment insister là-dessus, le travail qu'on fait avec la PJJ depuis 9 ans en Languedoc-Roussillon, sur deux choses importantes, des critiques radiophoniques. Donc, ils utilisent beaucoup, il y a des éducs qui utilisent l'outil radio comme outil d'éducation. Et donc les gamins voient, je leur fais une petite sélection de films, de courts-métrages qui me semblent intéressants, je les montre aux éducs et puis ils choisissent, et puis ensuite ils ont les films bien en amont et ils font des critiques qui sont alors très très pointues.
Donc des critiques orales, des critiques
voilà.
Et puis ils font
un habillage musical, hein, comme ils enregistrent ça, comme une critique radio qui passe ensuite à la radio d'ailleurs. Et nous, on les passe à chaque fin de court-métrage, en pleine salle de cinéma, la lumière se tamise, et en fait, c'est ça qui lance le débat. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que c'est fait avec beaucoup de sérieux, et les jeunes, l'avantage, c'est qu'ils sont authentiques, et qu'ils parlent avec leur trip. Donc ça met...
Pas d'enjeu, de presse derrière, c'est
non, vraiment.
La personne, l'enfant, le collégien qui évoque et qui exprime ce qu'il a ressenti.
Voilà. Donc, et puis après, ils l'écrivent, ils le travaillent très sérieusement, comme des vrais pros à la radio. Ça, c'est très intéressant. Et puis, pendant le festival aussi, ils animent un plateau direct. Voilà. Donc, ils viennent avec la radio, ils installent tout. Et puis, ils interviewent les professionnels présents, les réalisateurs présents. Et ça, c'est vraiment formidable, quoi, d'arriver à faire ça.
Alors du coup, c'est une radio complètement dédiée à cela, qui est éphémère, qui existe là le temps de ce festival.
C'est une association qui s'appelle Wakadi.
Wakadi.
Voilà, ça s'appelle On a quelque chose à dire.
Il faut le dire.
Voilà, ça s'appelle On a quelque chose à dire.
Ouais.
Et souvent, voilà, il y a une association avec la PJJ là-dessus.
D'accord. Très bien, donc on est vraiment là dans un public jeune, un cinéma qui n'est pas destiné exclusivement aux jeunes,
non,
mais qui les rejoint dans leurs préoccupations.
Bon, on espère, oui, on espère. Ouais. Après, on essaye de toucher le grand public, comme on dit, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que Montpellier étant noyé par des événements, qui plus est cinématographiques, donc on a quand même du mal à avoir une grande médiatisation. Donc, le seul endroit où on arrive encore à toucher le grand public, c'est les projections que j'organise dans des vraies salles de cinéma. Sinon, le reste du temps à Montpellier, c'est à la salle Rabelais et dans le réseau Canopée au CRDP. Et là, après, on a des projections dans la journée, spécialement jeune public. Voilà.
Dans des collèges ou des lycées ou toujours dans des salles de cinéma?
Alors, on tient à ce que ce soit dans un lieu culturel. Parce qu'on est dans l'esprit aussi de favoriser l'accès à la culture pour tous et puis de montrer aux gens aussi qu'il faut aller au cinéma, il faut voir les films sur grand écran. Après, hors période de festival, on organise des projections dans des institutions. Voilà, donc des bibliothèques, des maisons pour tous, des centres sociaux, des collèges, des lycées. On va partout.
Partout. Et vous accueillez des films de partout?
On essaye. Bon, là, c'est ouvert sur l'européen. La difficulté, après, c'est la traduction. Voilà. Donc ça coûte très cher de faire traduire des films. Donc c'est là où ça pêche un peu. Et puis, il faut faire des choix. Voilà. Donc sur le Languedoc-Roussillon, Occitanie, pardon, je vais m'y faire.
Hein. Oui.
On a 29 projections à l'année, sur l'année. Voilà. Donc c'est aussi selon les territoires... les sites, et puis il y a des films selon les formats aussi, il faut adapter si c'est du DCP, c'est-à-dire le format cinéma, si c'est du DVD, du Blu-ray, enfin, il faut faire attention à des détails techniques.
Absolument. Est-ce que vous avez des films de type animation?
Oui, tout à fait, souvent.
Souvent même,
d'accord. Souvent parce que c'est aussi un cinéma qui est très peu diffusé. Enfin, je parle moi du cinéma d'animation artisanale. Voilà. Et on pense souvent que c'est pour le jeune public, ce qui est faux. Voilà, le dessin animé et le film d'animation, c'est pas du tout pour le jeune public, c'est un genre cinématographique en part entière, tout comme le documentaire. Donc il y a des films jeunes publics qui seront des films de fiction, ça dépend du message et de comment c'est raconté en fait.
Ce n'est pas la forme qui va déterminer le public choisi.
C'est plus facile, c'est vrai, c'est plus facile quand on travaille avec des écoles maternelles ou élémentaires de partir sur du film d'animation. Du film d'animation, du dessin animé, ça devient de moins en moins fabriqué en fait. Maintenant c'est de la 3D... Il y a des films de marionnettes, pâte à modeler, etc. Mais moi, j'aime bien le côté quand même cinéma traditionnel.
Alors, nous l'avons dit, là, cette 9e édition se termine. Comment est-ce que vous allez préparer la 10e? Comment est-ce que ça s'organise pour vous de préparer décembre de l'année prochaine?
Alors, c'est en cours parce qu'on revient du Festival d'Evreux où on a vu 60 films et on en ramène entre 15 et 20.
Alors quand vous dites « on », c'est vous?
Alors on a une petite équipe. C'est moi parce que je suis la programmatrice. Après, il y a le coordinateur et puis des militants, des gens qui sont disponibles pour se déplacer quelques jours dans le froid. Et donc là, on est redescendu. Et puis demain soir, on a une soirée avec des militants, les bénévoles et tous les partenaires. Voilà, il y a à peu près 20 partenaires. On fait une soirée projection et puis on va commencer à faire des pré-choix de films pour commencer à travailler puisque le festival en 2017 commencera à Montpellier en avril sur une semaine et après pareil s'étendra sur le reste de l'Occitanie avec en plus bien sûr maintenant le bassin de Toulouse.
Et oui, ça fait encore plus loin.
On a des équipes là-bas.
Il y a des équipes là-bas, je n'en doute pas. Et toutefois, la clôture se fera à nouveau à Montpellier?
Alors, on ne sait pas hein, pour l'instant parce que on n'est pas déterminé sur des choses précises. Chaque année, ça évolue en fonction aussi des films qui sortent. Parce que là, au Festival National, on a vu deux films magnifiques, Swagger et Diamond Island. Mais ils sortent en salle maintenant, en fait. Enfin, ils vont sortir entre Noël et le jour de l'an. Donc, il faut que je négocie maintenant avec les salles de cinéma si eux, ils les passent ou pas, s'ils vont les passer ou pas, ou les repasser ou pas. Ça, c'est pour les longs métrages. Parce que c'est vrai que pour toucher le grand public, soit il faut partir sur du gros événement, ou du film du patrimoine ou des choses comme ça, donc c'est pas déterminé encore.
Tout reste encore à faire dans les mois qui viennent.
Tout à fait.
Merci Catherine Rochette.
Merci à vous de m'avoir reçue.
C'était un grand plaisir.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.